Interview. 1. Interview.
Ok, the bird.
L'interview du jour.
Bonjour, ici Erdiwa et c'est l'heure de l'interview avec au studio Josette Liu. Bonjour.
Bonjour Yves.
Bonjour Josette, vous êtes bénévole au sein du réseau des acteurs du vieillissement et vous agissez aussi à l'association des petits frères des pauvres.
C'est ça, oui.
Ensuite, nous avons Florence Eldin. Bonjour.
Bonjour Yves.
Co-présidente au sein de l'ESCDD et puis aussi vous êtes donc en charge de l'autonomie dans le réseau des acteurs vieillesse. Et puis Mélanie, bonjour.
Bonjour à tous.
Mélanie Krier, donc coordinatrice autonomie et prévention au sein de la maison départementale de l'autonomie, donc sous l'égide du département.
Tout à fait.
Toutes trois, vous êtes ici pour nous annoncer cette grande semaine bleue qui se proposera à partir du 30 septembre et jusqu'au 6 octobre. Donc nous allons, c'est un événement qui est couvert par le département de la Drôme. Je vais m'adresser déjà à Mélanie puisque vous avez peut-être une vue plus globale de cet événement. Pour vous, cette semaine bleue, qu'est-ce que ça apporte pour les personnes âgées ?
Alors, ça apporte plusieurs choses. Ça apporte d'abord un événement pour eux, donc dans lequel ils sont présents, qui permet de les mettre sur le devant de la scène. Aussi, mixer les publics. Donc, de nombreuses actions se veulent intergénérationnelles, parce que c'est important que les générations se rencontrent, aussi pour changer le regard de la société sur les personnes âgées. C'est aussi des actions de prévention, c'est-à-dire comment on fait en sorte d'avoir un vieillissement qui se passe le mieux possible, rentrer le plus tard possible dans la dépendance. Et c'est aussi l'occasion de mettre en valeur tout ce qui se passe tout au long de l'année sur nos territoires, parce qu'on a beaucoup d'associations, beaucoup de partenaires qui sont engagés dans des actions de prévention, dans des actions de soutien auprès des personnes âgées, des personnes handicapées et des aidants.
Ce rendez-vous donc départemental au sein de toutes les communautés de la Drôme vous permettent donc un cliché de ce qui est produit actuellement à leur égard. Est-ce que tout au long de l'année, il y a cette possibilité aussi d'avoir cette vision sur ces activités ?
Alors, la semaine bleue, c'est effectivement le coup de projecteur. Donc voilà, on met en lumière ce qui se passe tout au long de l'année. Donc c'est l'occasion pour les personnes, c'est un peu comme un forum des associations. Là, vous allez trouver qu'est-ce qui se passe le reste de l'année sur le territoire. C'est pas un événement qui se passe, c'est pas un one shot. La semaine bleue, c'est pas juste tac, un jour on fait quelque chose pour les vieux. C'est non, on montre ce qui se passe tout le reste de l'année. Alors ensuite, voilà, on a les acteurs locaux, notamment l'espace social et culturel du Diwa, qui est bien au courant de ce qui se passe. En tout cas, il est ressource. Les personnes peuvent s'adresser directement à l'espace social pour savoir qu'est-ce qui se passe le reste de l'année, s'ils ne peuvent pas être là aux journées qui sont proposées lors de la semaine bleue.
Une question encore pour vous, Mélanie, c'est justement à l'image de l'ESCDD dans le Diwa, est-ce qu'il y a des structures similaires sur tout le département ?
Il y a des centres sociaux partout, oui, un peu sur tous les territoires. Après, nous, en tant que coordinatrice autonomie prévention, on est là en soutien des structures. Donc, par exemple, le réseau des acteurs du vieillissement dont nous parlera Flo est une instance qui est copilotée par le département. Donc, moi, j'anime cette instance avec Flo. Et j'anime le même type d'instance sur le reste de la vallée, donc notamment sur le territoire de la 3CPS et de la CCVD. Donc toute la vallée est couverte en termes d'animation autour de l'autonomie et de la prévention. Et sur le reste de la vallée, juste un tout petit mot pour dire qu'il y a une journée multipartenariale qui aura lieu le jeudi 3 octobre à Oust-sur-Sie, à Blanchelaine, et une autre journée multipartenariale qui aura lieu le mercredi 2 octobre à Maison Coside, à Livron. Donc c'est aussi l'occasion pour les partenaires de se rencontrer, de travailler ensemble, de se fédérer et de montrer, ce qui se passe pour les personnes âgées sur tout le long du territoire.
Florence Heldin, vous-même donc co-présidente de l'espace social et culturel du Diois. On parlait de brassage intergénérationnel, c'est aussi l'action qui est menée au sein de cette ESCDD.
Le SCDD, de par son agrément CAF, qui est renouvelé tous les 4 ans, on a pour mission d'animer, de faire du développement local et de l'animation de la vie sociale. Et on est ciblé à l'origine de l'agrément sur le public de, on va dire, de moins 9 mois. Je le dis parce que comme on parle de parentalité, ça commence à moins 9 mois, c'est symbolique, jusqu'à la retraite. Et à la retraite, la France est faite comme ça. On quitte la CAF, entre guillemets, on passe à la CNAV, la branche vieillesse. Et jusqu'à maintenant, la CNAV ne participe pas à l'agrément centre social. Donc nous, les personnes âgées, les vieux, on dit les vieux au RAV, et je continue de dire parce que je trouve que c'est un plus joli mot.
Et donc, parce que dans le mot vieux, il y a le mot vie.
Ouais. Et puis personnes âgées, c'est un peu administratif. Donc les vieux et les vieilles participaient aux activités de l'espace social sans être identifiés dans leur spécificité. Et en fait, depuis quelques années, alors pour certains centres sociaux, je m'occupe aussi de... je travaille à la Fédération des centres sociaux Auvergne-Rhône-Alpes sur le dossier vieillissement. Donc j'accompagne 122 structures en région sud-est, sur leur projet vieillissement. Et il y en a qui ont commencé il y a bien longtemps. En tout cas, pour ce qui concerne l'espace social, on n'était pas dedans jusqu'en 2016. Et ici, il y avait une commission CLIC. Donc, c'était le département qui avait une personne comme Mélanie, mais qui, à l'époque, avec la décentralisation, elle avait comme secteur d'activité que le Diois. Donc, elle était dédiée ici et elle s'occupait du handicap et du vieillissement, exactement comme Mélanie avec la maison de l'autonomie. Aux maisons de l'autonomie prévention. Donc on a commencé la commission, moi je l'ai prise en cours en 2014 quand j'ai été élue, parce qu'on pouvait intégrer la commission vieillissement qui était animée par le département, par le CLIC, donc Martine Chazelle qui était dédiée au territoire d'Iois. On a fait de l'excellent travail, moi je trouve en tout cas, Josette en faisait partie aussi, il y a tout un noyau dur qui s'était constitué autour d'elle. Et quand elle est partie à la retraite, le département a arrêté les CLIC. Alors, il y a des territoires qui en ont encore. Nous, on a arrêté les CLIC dans la Drôme. Et donc, avec tout le groupe et Martine, on s'est dit que comme il fallait qu'on trouve un endroit où aller, on a réussi à se faire accepter par, à l'époque, Olivier Royer, qui arrivait comme à la direction de l'espace social, qui nous a accueillis. Et puis ensuite, il ne s'est plus passé grand-chose pendant un an ou deux. Et il se trouve que je suis arrivée comme coprésidente à l'espace social en 2017. On retraçait ça il y a 2-3 jours, 2017. Et du coup, naturellement, je me suis retrouvée à reprendre la commission qui était là. Et puis voilà, on l'a développée, puisque de toute manière, petit à petit, les centres sociaux s'emparaient du secteur vieillissement en voyant qu'il y avait des besoins qui étaient assez spécifiques pour devoir s'y intéresser. Et donc, on a commencé à grossir un peu le réseau puisqu'il n'y avait plus d'autres instances. On n'a pas réussi à intégrer le handicap de manière vraiment spécifique, à part les AT qui participent. Et ensuite, il y a des caps qui ont été nommés. Et comme l'espace social, je pensais qu'on avait quand même besoin d'une légitimité pour parler du vieillissement, qui est un endroit justement avec des spécificités très marquées. Et du coup, j'avais à l'époque sollicité le département pour qu'on co-anime cette commission. Et puis, on s'est bien trouvés. On s'est succédé, les personnes du département sont succédées, on continue. Et en fait, ça, c'est super parce que ça apporte toute cette dimension comme ça du département, du suivi individuel des personnes avec des solutions individuelles. Alors que nous, on a cette dimension plutôt territoire, plutôt associatif, avec tout ce qu'on peut apporter de collectif, on est plutôt sur le lien social de proximité, l'animation de la vie sociale, toujours. Et puis, donc, ça a fédéré comme ça avec chacun nos domaines. Et à un moment donné, on avait même Sonia Rochat, qui était animatrice du comité local santé, et qui s'est rendue compte qu'il y avait un gros besoin côté vieillissement. Elle a fait ouvrir une branche de son côté, elle, dans son secteur, avec l'ARS. Et puis, elle est venue co-animer, donc on était trois co-animés, c'était vraiment intéressant parce qu'elle apportait toute cette dimension d'accès aux soins qui est quand même restée parce que le public maintenant est là. Il y a un CPTS, c'est professionnels médecine libéraux qui se sont réunis pour former un groupe un peu plus solidaire et pour réfléchir ensemble, essayer d'avoir une plus grande cohérence sur le territoire.
Et qui signifie communauté professionnelle territoriale de santé, CPTS.
Voilà. Et donc, du coup, sur ce RAVE, en fait, ce réseau des acteurs du vieillissement, en fait, on aborde un peu toutes les thématiques et tous les besoins du territoire. On essaye d'apporter des réponses.
Josette, donc, vous, par rapport aux petits frères des pauvres, peut-on faire un bref historique de cette association ?
Eh bien, ça a débuté par une formation, parce que il y avait une petite branche qui existait déjà pour l'accompagnement des personnes âgées, qui ne fonctionnait pas très bien parce que le monsieur était seul à Châtillon. Et donc, on a essayé de trouver une structure qui puisse accompagner les personnes isolées, parce qu'il y en a effectivement beaucoup. Et donc, on nous a, par l'intermédiaire justement du CLIC, une psychothérapeute qui était à notre disposition pour nous former sur l'écoute attentive. Et nous étions 5 à avoir eu cette formation très intéressante. Mais on ne voulait pas former une association nous-mêmes qui nécessite, par rapport à la loi de 1901, président, trésorier, secrétaire. Non, on ne pouvait pas gérer ça. Et on a eu la chance que les petits frères des pauvres faisaient un maillage sur le département, avaient rencontré les élus, avaient rencontré Martine Chazelle à l'époque, qui avait dit « Mais très bien, on a des gens qui sont formés, qui sont prêts à vous rejoindre ». Et voilà comment s'est constituée notre petite équipe, tout doucement. Au départ, 3 personnes, puis 4, puis on a fait... je suis à l'origine de ça, puisque je suis tout le début de l'antenne d'Oise. On a visité les médecins, les kinés, le personnel soignant. Bon, voilà, on a fait tout un... Et puis, petit à petit, cette équipe s'étoffe un peu et... Et on accompagne donc les personnes âgées. Mais là, je fais un appel pressant parce que vraiment, on manque de bénévoles et j'espère que certaines personnes nous rejoindront parce que c'est vraiment... Quelquefois, on a des cas et on peut pas faire l'accompagnement parce que en plus, on travaille en binôme hein, pour que la personne ait un accompagnement toujours très régulier en cas de carence de l'un ou l'autre. Et donc, bon, ben, il nous faut du monde. Voilà. Et ça, c'est vraiment l'appel que je fais aujourd'hui, très solennel, parce que vraiment, il y a une solitude extrême. Et en plus... On ne la découvre que rarement parce que justement les gens étant tout seuls, ben, n'ont pas le moyen de s'exprimer, de demander. Il y en a qui ont l'habitude d'avoir que leur personnel soignant ou l'auxiliaire de vie qui passe une heure par jour. C'est terrible.
Je me tourne vers Mélanie Greer. De votre fonction de coordinatrice, est-ce que vous constatez parfois des disparités selon certains secteurs de la Drôme et les initiatives locales, comme certaines associations, sont-elles aussi, en quelque sorte, un thermomètre de territoire? Et est-ce que de ça, le département propose un soutien plutôt?
On n'a quand même pas la visibilité sur tout ce qui existe. On arrive à en recenser pas mal, notamment parce que le département bénéficie du soutien de la CNSA, Caisse nationale de solidarité et de l'autonomie, qui finance les actions de prévention. Et donc, nous, en tant que coordinatrice autonomie-prévention, on est 4 CAP, donc sur les 4 territoires d'action sociale du département. Donc nous, on arrive de façon territoriale à avoir une vision un peu plus fine de ce qui se passe. Et on accompagne les porteurs de projets qui veulent monter des actions de prévention. Donc ils nous sollicitent pour être accompagnés, pour remplir un appel à projet et solliciter les financements mis à disposition par la CNSA, qui sont quand même de plus d'1,2 million pour tout le département, qui sont calculés en fonction du nombre de personnes de plus de 60 ans. Donc c'est quand même une chance d'avoir ces possibilités de financement. Et du coup, le département incite les partenaires à monter des actions sur les territoires qui n'en bénéficient pas habituellement, donc les zones blanches. Donc voilà, on a sorti une cartographie des zones blanches sur lesquelles ce serait important de pouvoir développer des actions, puisque les personnes qui habitent dans ces zones reculées, souvent, donc le haut plateau d'Iwa, par exemple, Borrière, par exemple, c'est une zone sur laquelle il n'y a pas d'action. Saint-Nazaire-le-Désert, c'est aussi une zone blanche. Donc voilà, si on a des partenaires qui veulent y aller pour aller au plus près des personnes qui ne peuvent pas se déplacer jusqu'à Die, il y aura une attention particulière portée sur ces projets-là.
Une autre question aussi, c'est de peut-être préciser aux auditeurs le terme prévention et celui d'autonomie, à savoir ce que comprennent ces termes.
Alors, prévention, c'est comment on va proposer aux personnes des actions qui leur permettent de rester, de pouvoir se débrouiller seules le plus longtemps possible, malgré l'avancée en âge. Et forcément, quand on avance en âge, on a une perte d'autonomie, c'est-à-dire qu'on peut avoir besoin d'aide et de soutien dans les actes de la vie quotidienne. Mais au plus, on va prendre soin de soi et de sa santé. Au plus, on va avoir besoin d'aide tôt.
C'est avant d'être vieux, commencer déjà à prendre soin de soi dans ce sens-là, en fait.
Et en quelque sorte un entre-deux aussi.
Non, mais ouais, c'est ça, c'est-à-dire qu'on ne pense pas à aller à ces endroits-là, alors que si tu prends l'habitude de ces temps collectifs, de réfléchir ensemble, de chercher des solutions, bah, tu as une entrée comme ça, mais on en parlera tout à l'heure avec la Semaine Bleue, parce que le thème de cette année, justement, va vraiment passer par cette porte d'entrée dans le vieillissement, quoi.
Pareil pour vous, les petits frères des pauvres, il y a en quelque sorte une antenne sur plusieurs secteurs dans la Drôme.
Dans la Drôme, non. On est la seule. Par contre, notre coordonnatrice, qui est basée sur Valence, a un secteur d'Ardèche, mais dans la Drôme, non, c'est que nous. Alors, on prospecte un peu, crée peut-être, mais c'est très froid encore. Voilà, sinon, pourtant, il y a vraiment des besoins, mais c'est pas facile. Bon, il faut les moyens, il faut les moyens humains aussi, c'est ça. Il y a tellement de structures que certaines seniors, d'ailleurs, sont pris avec les associations culturelles, sportives, alors là, on est riche, on a... Allez voir au forum des associations qui viennent se dérouler, combien d'associations ont mis leur stand. Donc, c'est pas facile de trouver des gens qui consacrent du temps aux vieux.
À savoir aussi, s'il n'y avait pas de bénévoles, quelles seraient les activités proposées?
Nous, on essaye, malgré nos manques de bénévoles, on essaye de les personnes que nous accompagnons, par exemple... Il y a 15 jours, nous les avons amenés au Pas des Ondes, au Petit Lac. On a passé la journée là-bas avec un restaurant. Le restaurant était encore ouvert. Ils étaient tout à fait contents. On a pris donc le bus de l'espace social qui a été mis à notre disposition. Et là, on les a emmenés là-bas. Sinon, il y a deux résidentes des Tilleuls qu'on accompagne. C'est mon collègue de Châtillon qui va, Luc, les récupérer et leur tenir compagnie toutes les semaines. Et il les a emmenés à Charmanon, pas loin de Lyon, à une maison de vacances qui est gérée par... la Fraternité de Lyon, Petits Frères des Pauvres, et qui ont passé une semaine de vacances là-bas. Voilà, on essaye de faire quelques actions. Là, on les emmène aussi, ceux qui sont à Die, même s'ils sont sur fauteuil, on les accompagne puisqu'ils sont à l'EHPAD, et on les sort pour un petit goûter en ville. Et là, et pas longtemps, il y a 3 mois à peu près, on les a emmenés à la parenthèse des douceurs, je ne vais pas faire de pub, mais et j'ai organisé un petit loto. Alors, ça a été un moment récréatif très intéressant.
Je veux bien rebondir, Yves, pour dire qu'effectivement, l'implication des bénévoles est absolument essentielle. On voit bien que les associations tournent grâce aux bénévoles. Et comme disait Josette, des bénévoles qui vieillissent,
bien sûr.
Et de plus en plus âgés, d'où cette importance de l'engagement de nouveaux bénévoles pour que les associations puissent continuer à tourner et puissent bénéficier aux personnes qui en ont le plus besoin.
Et justement, j'allais me tourner vers vous, Mélanie, là-dessus. Les bénévoles aussi donc, ont une très grande importance hein, dans le fonctionnement du monde associatif. Est-ce qu'il y a aussi, au niveau départemental, cette prise de conscience de l'apport qu'ont les bénévoles et qu'est-ce qu'il en serait, justement, s'il y en avait beaucoup moins?
En tout cas, ce que fait le département et ce que finance aussi la conférence des financeurs, c'est des actions de formation à destination des bénévoles, donc qui sont essentielles. Hein. C'est ce que disait Josette tout à l'heure en début d'émission, que être formé à l'écoute active, être formé à connaître les dispositifs qui existent sur le territoire pour pouvoir orienter ensuite les personnes, ça c'est essentiel. Donc évidemment, le département est engagé là-dedans.
Oui, je reviens un peu là-dessus quand même. C'est qu'un bénévole qui a un certain temps de disponibilité puisse justement exercer des activités au sein de l'association et peut-être aussi, en quelque sorte, se former aussi à ces activités. Et est-ce qu'il y aurait possibilité d'une prise en compte de la part des organismes de chômage de prendre plus de considération sur ces activités par rapport au statut du chômeur?
Voilà. Alors, ça existe un peu depuis quelques années. Je peux prendre mon propre exemple où je travaille, mais je suis quand même inscrite comme demandeur d'emploi. Et on m'a rappelé il y a quelques années pour me demander où j'en étais de mon parcours. Et en fait, mon travail de bénévole a été très bien reçu et valorisé. Ma fiche a été changée en conséquence. Donc, il y a une vraie prise en compte. Et depuis le Covid, on le sait que les territoires... On a vu maintenant, enfin c'est officiel que les associations ont beaucoup participé à maintenir le lien social et ont eu des résultats sur beaucoup, beaucoup de territoires pendant le Covid. En fait, nous, la question du bénévolat des personnes âgées, par exemple, dans les centres sociaux, elle est prise en charge. Parce qu'en fait, nous, on accompagne le bénévolat et on forme les bénévoles, ça fait partie de nos missions. Et sur le public vieillissant, j'ai remarqué là, cette année, dans les bilans que j'ai pu faire, qu'il y a une beaucoup plus grande fréquentation des centres sociaux par les personnes âgées. Les centres sociaux sont enfin repérés comme étant un lieu de ressources pour les personnes âgées, un lieu d'activité. Et en fait, depuis le Covid, les méthodes de travail ont changé, où en fait, pour rassurer un peu les habitants et revenir vers le collectif, il y a beaucoup, beaucoup de postures qui se sont ajustées dans les centres sociaux pour permettre des accès plus libres, des temps plus libres et puis surtout une implication des personnes âgées dans la programmation des activités, voire en tant que bénévole animateur pour transmettre des savoirs. Et en fait, le parcours bénévole des personnes âgées est très accompagné finalement aujourd'hui parce qu'on sait que c'est une solution pour le bien vieillir aussi. Donc il y a cette dimension d'utilité sociale qui est à prendre en compte et qui est très 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 consciente chez les personnes âgées à tel point qu'on prépare un projet là, avec le RAF pour détricoter un peu cette notion. Parce que l'excès d'utilité sociale, d'usage de l'utilité sociale ouvre d'autres risques. C'est-à-dire que quand on n'est plus utile socialement parce qu'on a perdu un peu d'autonomie, parce qu'on est un peu moins mobile, parce qu'on a des facultés cognitives qui baissent un peu, on a l'impression qu'après cette dernière corde qu'on raccroche, qui est l'utilité sociale, il n'y a plus qu'un toboggan pour mourir. Et en fait, ça, on essaye justement dans les représentations du vieillissement de lutter contre et aussi d'expliquer que le fait d'être vivant suffit à avoir le droit d'exister dans la société, à avoir son utilité, si on veut parler d'utilité, mais est-ce qu'un humain a vocation à être utile, à son utilité dans la société. Et on n'a pas besoin d'avoir une utilité sociale reconnue, il y a une pente qui est un petit peu dangereuse par là, à vouloir avoir cette vision utilitariste de l'être humain, en fait. Et ça, chez les personnes âgées, c'est très très difficile à détricoter parce que ça a été très très ancré à travers les âges, et nous aussi, hein, on est encore très, très empreint de ça. Donc voilà, on encourage le bénévolat des personnes âgées. Ici, on n'arrive pas encore à avoir des programmes très spécifiques, mais j'espère bien que petit à petit, on y arrivera. Et d'un autre côté, on fait attention à ne pas tomber dans les écueils de cette notion-là.
Vous écoutez l'interview du jour sur RDIWA.
La radio du DIWA.
107.5
101.7
FM.
Nous arrivons à cette semaine bleue intitulée « Bouger ensemble pour entretenir la flamme ». Bouger ensemble, c'est intergénérationnel. Donc, comment articuler ces actions que vous proposez et qui seront en vitrine donc, pour cette semaine bleue au travers de la vallée de la Drôme, hein, avec tous les secteurs comme Alex, Aoust-sur-Cy, Bourdeaux, oui. Chabriant, Crédy, Granes, Livron-sur-Drôme, Loriol-sur-Drôme, Minglon-Saillant, Sainte-Croix et Saint-Julien-en-Quin. Donc, sur chaque secteur, il y a des structures opérationnelles qui se passent plus ou moins bien, ça dépend.
Moi, je peux répondre pour le DIWA, parce qu'il y a une spécificité pour la première fois cette année. Mais après, Mélanie, ça va être intéressant que tu nous fasses le lien avec les autres communautés de communes. Mais en fait, pour la première année, alors déjà, sachant que c'est la 72e édition de la Semaine Bleue, donc elle est arrivée après-guerre et c'était la fête des vieillards à l'époque. Dans le DIWA, ça serait intéressant de savoir quand la Semaine Bleue a commencé, la première date de la première Semaine Bleue dans le DIWA. Si quelqu'un sur le territoire connaît cette date et est témoin de ce temps, puisqu'avant les Semaines Bleues duraient un mois dans le DIWA et pas que, ça serait intéressant qu'on fasse un petit historique de ça. En tout cas, nous, pour la première fois, on ne prend pas en charge la Semaine Bleue complète. Avant, on portait l'événement avec la commission et ensuite avec le RAV, parce que ça semblait évident de rassembler déjà les partenaires. Beaucoup font partie, sont déjà membres du RAV. Et puis, on se réunissait, on cherchait une concordance entre nos actions, à ne pas se chevaucher, à avoir un fil rouge selon la thématique. On avait des tas d'idées comme ça qui allaient relier nos actions les unes entre les autres. Et en fait, depuis l'année dernière, le département a lancé des démarches simplifiées pour s'inscrire à la Semaine Bleue, pour inscrire nos activités. Et ça a rendu impossible ce portage global. Donc l'année dernière, on a cru le porter, comme d'habitude. Et quand on a vu qu'effectivement, ça ne fonctionne pas avec cette inscription en ligne, parce que des personnes ont pu, des associations ont pu s'inscrire directement, ce qui est normal, en fait. Mais du coup, nous, on avait travaillé de notre côté. Donc, des gens s'étaient inscrits même dans notre journée partenariale. Il y avait eu toute une incompréhension qui fait qu'on n'avait pas réussi à se coordonner. Et du coup, on s'est dit que cette année, enfin, le bilan qu'on en a fait avec les membres, c'est de se dire, on va se contenter de faire les actions du RAV. Donc, cette année, vous avez donc la RAV partie et le ciné-débat qu'on a gardé. Et puis, le reste, ce sont des personnes qui s'inscrivent. Mais après, beaucoup d'associations ont mis des activités dans la semaine et sont aussi membres du RAV et sont aussi dans la journée multipartenariale. Mais en tout cas, ça éclaircit les temps auxquels on peut, comment on s'inscrit dans les temps disponibles.
Vous, les petits frères des pauvres, est-ce que vous allez justement sur le terrain pour...
Oui, bien sûr. On accompagne les personnes, on les écoute et puis...
Mais vous allez aussi à la recherche de personnes qui ne sont peut-être pas visibles.
Quand on nous les signale, bien sûr, on va les voir et si elles acceptent l'accompagnement, évidemment, on continue. Et voilà, c'est pour ça que je fais un appel bénévole parce que là, par exemple, le jour du forum, on a un monsieur qui est venu et qui demandait à ce qu'on l'accompagne. Parce qu'il est handicapé, pour la lecture, pour autre, pour l'instant, on n'a pas pu encore accéder à sa demande parce que on n'a pas de bénévole prêt. Voilà, parce que, en fait, nous, notre bénévolat consiste à accompagner la personne qui est seule chez elle, lui consacrer un moment dans la semaine, voire tous les 15 jours, mais plutôt la semaine, avec le binôme, on se relaye. Mais en fait, il y a tout un accompagnement autour. Là, la personne que j'accompagne avec Yves, notamment Yves Joubin, qui est mon binôme, bien, elle est en demande perpétuellement, non seulement pour l'accompagnement, voilà, à là, lui rompre sa solitude chez elle, mais pour l'état de démarche dans la vie quotidienne. Parce qu'elle est handicapée et elle est perdue dès qu'elle a un petit problème. Donc, on essaye quand même de les aider. Et je voudrais dire quelque chose. C'est vrai que le bénévolat, pas rémunéré évidemment, mais on voudrait être aidé au maximum pour pouvoir accéder à tous les services administratifs, pour pouvoir accéder aux demandes. Par exemple, la personne que j'accompagne, il y a 2 ans, elle a eu un gros problème parce qu'elle n'avait pas transmis les dossiers à temps et on lui avait interrompu ses services d'auxiliaire de vie. Heureusement que nous étions là, on a pu parer vite au plus pressé. J'ai moi-même fait les démarches auprès du département pour accélérer la prise en charge de son dossier à la commission. C'était très difficile. Et en plus, c'était une période d'été, les vacances. Alors voilà, je crois qu'il faut aussi que... Voilà, on ait un petit peu d'aide à ce niveau-là.
Mélanie Écrire, pareil. Donc, on peut constater en France une augmentation de la population en vieillissement. Ça, c'est indéniable et ça va très croissant. Est-ce qu'il y a déjà, justement, en prévention des programmes qui sont en réflexion. Le point, c'est aussi la dématérialisation de l'administration qui amène beaucoup de difficultés aux personnes qui n'ont pas forcément les capacités d'aborder ce domaine. Hein. Et quelles sont vos propositions dans ce domaine ?
Alors, concernant le vieillissement de la population, effectivement, hein, c'est indéniable. Donc, les personnes vieillissent plus longtemps, il y a de plus en plus de vieux, il y aura aussi forcément de plus en plus d'aidants. Voilà, tout ça, oui. ça va ensemble.
Et des aidants vieux maintenant, et des aidants qui prennent de l'âge.
Et des aidants qui vieillissent aussi, mais quand même aussi des jeunes aidants.
Et des très jeunes.
Il ne faut pas les oublier. Et du coup, oui, bien sûr, le département travaille à toute la question de la politique autonomie, à la vulnérabilité, à la thématique des aidants. Donc, il y a, comme je disais tout à l'heure, des appels à projets qui permettent de financer des actions de prévention. Il y a des journées départementales à destination des aidants. Alors, pour les soutenir, mais aussi pour leur permettre de se reconnaître en tant qu'aidant, parce qu'aujourd'hui, on a une problématique là-dessus. Les personnes sont aidantes, mais ne le savent pas. Donc, quand il y a des groupes de parole qui se mettent en place pour les aidants n'y vont pas parce qu'ils pensent que ce n'est pas pour eux. Donc voilà, on travaille aussi à ça. Et sur la question de la numérisation, alors quand même, il faut rappeler que le département est présent sur les territoires, en local. Donc on a encore un centre médico-social à Die. C'est important quand les associations repèrent des personnes isolées, des personnes qui ont besoin d'un soutien administratif et ou financier, d'orienter la personne vers le centre médico-social ou que l'association appelle le centre médico-social quand la personne n'est pas en capacité de le faire pour demander une visite à domicile. Ça, c'est des choses qui se font. Donc voilà, c'est important de solliciter les services qui sont là pour ça. Et la MDA accompagne les CCAS et les agents d'accueil des centres médico-sociaux pour les former justement aux dispositifs qui existent en termes d'autonomie, de prévention. Et donc c'est important que ces points-là soient repérés. Donc ça s'appelle les points d'accueil MDA. Le CCAS de Die est point d'accueil MDA. Donc voilà, n'hésitez pas aussi à vous tourner vers lui quand la personne habite sur le territoire de Die. C'est le CAS en particulier qui interviendra. Sur toutes les communes alentours, c'est le centre médico-social.
Merci, Mélanie.
La maison autonomie de prévention, je crois qu'on peut aussi la solliciter en direct quand on a besoin d'informations.
Oui, donc vous pouvez joindre Drôme Solidarité au 04 75 79 70 09 du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h, fermé le jeudi après-midi. Qui répond aux demandes des personnes âgées et de leurs aidants, et même des professionnels, les professionnels qui ont besoin d'en savoir un peu plus, qui ont besoin d'une information sur un dossier, n'hésitez pas à les solliciter. Par contre, le siège de la MDA est basé à Valence, au plateau de l'Autagne, donc tout le monde n'est pas en capacité de se déplacer jusqu'à l'Autagne pour avoir une réponse sur son dossier. C'est pour ça que ces points d'accueil MDA sont mis en place au plus près des personnes. On est plutôt dans une démarche d'aller vers et éviter aux personnes de toujours devoir aller à Valence pour se renseigner. Donc ce numéro, il est noté partout, le numéro de Drôme Solidarité. Je vois Josette qui veut le noter. Et pour les structures qui nous écoutent, n'hésitez pas à me solliciter. Moi, je peux vous ravitailler en flyers, en documents qui sont transformés en FALC, faciles à lire et à comprendre. Voilà, la MDA édite ce genre de documents. Et si vous avez aussi besoin de dossiers pour faire une demande d'APA, une demande de PCH, prestation de compensation du handicap, n'hésitez pas à me solliciter.
Pour cette semaine bleu. Il y aura beaucoup de rendez-vous à donner. Hein. Je vais rester sur 10, hein, notamment, avec des musées itinérants hein, de Germaine, ou alors des expositions autour du sport, un documentaire débat également. Ça aura lieu au cinéma Le Pestel, lundi 30 septembre, dans l'après-midi. Donc, d'autres représentations locales, avec des ateliers de gestion et de détente. Le Gingong est santé autonome, et des brèves histoires de lutte aussi par rapport à des spectacles, à travers des spectacles.
La pièce de théâtre jouée formidablement par Laurie et Sabine.
Et toutes ces structures-là, je ne les ai pas toutes citées, mais elles sont justement un brassage de générations aussi.
Les associations qui interviennent auprès des personnes âgées, et pas que, parce que c'est souvent des activités intergénérationnelles, ont tous les âges, en fait. C'est pour ça qu'on est toujours étonné quand on voit le RAF sur Réunion, on dit « Ah, vous n'êtes pas vieux !» En fait, non, parce que les acteurs du vieillissement peuvent avoir tous les âges. Et puis déjà, quand on dit vieux, on se rend bien compte qu'entre la retraite et la mort, il y a plusieurs tranches d'âge qui... Enfin, c'est des générations entières de différence. Donc, c'est difficile aujourd'hui de résumer le réseau des acteurs du vieillissement en disant « c'est les vieux ». C'est un peu plus complexe que ça, en fait. C'est un public, en tout cas, qui est pris en charge à partir de la retraite. C'est peut-être comme ça qu'on le définirait le mieux, parce que en fait, il y a encore toute une vie. On va dire que c'est la partie sous l'iceberg si on prend nos instituts. On retrouve maintenant on développe beaucoup d'activités autour de ça, puis on a des associations. Alors nous, dans le DIWA, on est très très fort, donc on en profite. Mais là, tout ce que tu cites, c'est des personnes qui se sont inscrites librement pour animer la Semaine Bleue. Certains, voire beaucoup, mais ça c'est Mélanie, tu auras peut-être plus la vue dessus, beaucoup sont financés déjà par la conférence des financeurs. Donc ça nous permet, nous aussi, et même ces dernières années, ça nous a permis de financer mieux la Semaine Bleue, d'avoir plus d'activités, parce qu'en fait, les budgets se réduisent fortement d'année en année. Et c'est grâce à la conférence des financeurs, finalement, qu'on arrive encore à avoir des activités sur la Semaine Bleue. Donc nous, on va le RAV, on a décidé, donc on s'occupait seulement, on propose, nous, le ciné-débat du lundi, puisqu'il est traditionnel et puis qu'on y passe des super moments. Les débats, en général, on arrive à les faire au jardin, au soleil, avec un verre dans la main.
Très intéressant.
Il y a un monde fou et c'est vraiment intéressant. On croise des gens qu'on n'a pas l'habitude de croiser, qui discutent entre eux. Enfin, on anime le débat, mais en tout cas, on entend des voix qu'on n'entend peut-être pas d'habitude et qui s'entrecroisent. C'est vraiment super intéressant. Cette année, le documentaire, alors je sais qu'il est déjà passé en 2015 à la Semaine Bleue, et Jean-Pierre Sjurle au cinéma se rappelle l'avoir passé d'ailleurs. C'est Les Optimistes, c'est un film suédois. Et c'est un documentaire avec des femmes âgées de 66 à 78 ans, je crois.
Ça va jusqu'à 98.
98 ans. Qui décident de reformer un club de volley et d'aller affronter les seniors masculins nationaux. Et donc, il y a tous les préparatifs. Il paraît que c'est truculent, que ça rappelle comme la vie est chouette quand on regarde ce film. Et le débat qu'on va animer après, parce que c'est un peu la thématique de cette année. Et puis nous, on s'est rendu compte qu'on était pas mal dans le corps cette année. Donc on va parler du vieillissement, de la mise en mouvement, enfin le pouvoir d'agir et le pouvoir de faire et d'agir et d'être quand on vieillit.
Mélanie, vous vouliez rajouter sur les propos ?
Juste rebondir sur ce que disait Flo en tout début de discours là, par rapport à la question de la prévention, à l'âge des personnes qui font partie du RAV, etc. C'est que il nous semble que c'est important de commencer jeune à penser à notre vieillissement. Donc c'est ça la prévention. Donc n'attendons pas d'être vieux pour se dire qu'on va vieillir. De toute façon, on vieillit à partir du moment où on est. Donc voilà, tout le monde peut s'inscrire dans le RAV, tout le monde peut venir participer à ces activités. La RAV Party, c'est une journée qui est aussi intergénérationnelle. Il y aura les jeunes du centre de loisirs qui seront là, qui vont nous rejoindre l'après-midi. Mais c'est ouvert aussi à leurs parents. Il va y avoir de l'activité physique, il va y avoir des jeux, il va y avoir des ateliers de remise en selle.
Voilà, fabrication de cartes postales.
Voilà, massage des mains au son de la harpe avec Agnès. très agréable.
Et Marie-Flora.
Et Marie-Flora, oui.
Donc voilà, c'était ça que je voulais rajouter, que c'est important que tout le monde s'inscrive dans cette logique. On cherche aussi à casser les représentations qu'il y a sur le vieillissement. Ce n'est pas parce qu'on vieillit qu'on a plus d'importance dans notre société.
Et j'ai même une petite citation que j'ai lue ce matin en expliquant que ce n'est pas parce qu'on est un vieux pommier qu'on produit des vieilles pommes.
Oui. Et pour rappeler aussi, tout au long de cette journée de la rave party du 2 octobre, à partir de 9h jusqu'à 17h, il y aura aussi des stands d'information des acteurs du DIWA pour les personnes qui souhaiteraient s'informer. Et ce document, donc, qui concerne la vallée de la Drôme pour la semaine bleue, on peut le trouver sur quels endroits ?
À l'espace social. Il faut aller chercher, bien sûr. Il y a des affiches qui ont été posées. Il y a le journal d'information, le journal du DIWA, qui est lu par la majorité des DIWA qui sont abonnés. C'est le petit journal local. Voilà.
Sur le site de l'espace social et culturel aussi, vous avez ce document.
Sur le site, je n'ai pas encore pris en charge le site, la page vieillissement de l'espace social. Il faudrait, mais je n'ai pas encore pris le temps de faire ça.
Sur le site du département, vous le retrouverez dans les commerces d'IWA, dans les maisons de santé, chez les kinés. On essaie d'en mettre un peu partout. Il reste quand même un stock à l'espace social pour ceux qui veulent venir en chercher, en distribuer autour d'eux. On a aussi des acteurs du RAV qui sont allés en mettre dans les petites communes alentours, parce que c'est important effectivement de diffuser dans tout le d'IWA. Mais il y en a encore, je crois, Flo.
Oui, il en reste. Oui. Il en reste. Et puis, venez vous servir. On a même fait... pour nous, pour les actions du RAV, deux petits flyers qu'on peut associer au programme pour avoir un focus sur la journée justement partenariale, voir un peu plus ce qui s'y passe. On va faire aussi une invitation officielle par mail avec le même détail pour transmettre à tous les adhérents de tous les membres. Donc ça finit par faire un large réseau. On a 260 structures qui sont inscrites dans le RAV. Donc du coup, quand chacun diffuse à son réseau, bon, ça commence un petit peu à ratisser bien. C'est vrai que quand même, je trouve que depuis le Covid et malgré la vitalité du réseau, parce que vraiment, ça bouge bien et puis on aborde toutes sortes de questions, on commence à avoir des envies même de se former ensemble. Enfin, il y a vraiment un réseau qui commence à être vraiment très autonome avec un gros noyau dur. Mais malgré tout, les semaines bleues, on n'arrive pas à retrouver la même dynamique qu'on avait avant le Covid. Et c'est questionnant, hein.
C'est une délégation au département, cette gestion des personnes âgées également.
Eh bien, au département, c'est une direction dédiée. La maison départementale de l'autonomie s'occupe des personnes âgées, des personnes en situation de handicap et des aidants.
Et donc, c'est une représentation de l'État au niveau départemental.
Vous vous occupez des solidarités, quoi, en général.
Ah oui, on est rattaché à la Direction Générale des Solidarités.
Je voudrais dire deux petits mots par rapport au club des personnes âgées, parce que là, il faut vraiment, on cible les personnes âgées, là. Et ça a été très difficile à dire. Le club boudait beaucoup. Mais qu'est-ce qui se passe? Ah oui, alors, si on faisait un goûter, ça, alors là, il y avait 100 personnes, 150 personnes. On cherchait des salles pour nous accueillir. Bon, bref. Et là, je ne sais pas, un élan par rapport à la chorale qui a pris une ampleur, je dois dire, à peine contrôlable, parce que notre local ne peut plus accueillir toutes les personnes. On fait deux répétitions par semaine, puisque je suis adhérente au club UNRPA, l'Escapade, et notamment je participe à la chorale Le Cœur en Fête. Et là... Ah, alors on va les mobiliser par rapport à ça, parce que justement la chorale intervient pour faire une petite animation là, à la semaine bleue, la journée phare du mercredi. Et donc ça y est, on les mobilise un peu. Et je crois que là, c'est aussi une question de volonté. Il faut que les gens aussi se prennent un peu en charge eux-mêmes et aillent aussi vers les structures qui les accueillent. Parce que je trouve qu'à 10, c'est quand même riche. Il y a beaucoup de choses. Et on ne peut pas les accompagner par la main. Il faut aussi qu'ils viennent vers nous un peu. Et voilà, je crois que... Ah, après, c'est la santé. Quand la santé ne va pas, c'est sûr qu'on ne peut pas se déplacer. Ben, on est là. Petits Frères des Pauvres et d'autres associations.
Si vous voulez participer au repas du Martourelle mercredi midi, il faut vous inscrire très très rapidement avant mercredi auprès d'Espace Social. Le repas coûte 12 euros. Si vous avez une difficulté pour le prendre en charge, vous me contactez, vous demandez à l'accueil pour me contacter. On va trouver des solutions, il n'y a pas de problème. Mais voilà, donc il y a ce grand repas au Martouret où il faut s'inscrire. Et au niveau pratique, sachez aussi qu'on a Stéphane Graia qui a lancé Tout à Biclou, qui transporte des colis et qui maintenant transporte des personnes avec un biclou vélo, deux places, qui va faire un test. Donc il y a des personnes qui se sont déjà inscrites, il va faire des allers-retours à la demande, comme ça, pour les personnes qui veulent participer au Martouret. Donc s'il y en a d'autres qui veulent, le numéro sera accessible toute la journée, donc on pourra appeler Stéphane sur place pour lui demander un transport. Il ne faut pas hésiter à faire appel à lui. En amont, c'est plus facile, mais sur place, ça sera encore possible de l'appeler. Et donc, on va tester ça. Ça marche aussi pour le cinéma, pour ceux qui veulent être accompagnés au cinéma. Donc là, c'est de 10 à 10. Et par contre, au Martouret, si vous avez des besoins dans les villages pour venir au Martouret et être raccompagné, on va mettre en place une navette, donc une voiture individuelle qui va être conduite par Philippe Sujobert. On le remercie parce qu'il intervient en tant que bénévole de l'espace social. Et également, il pourra conduire la navette de l'espace social s'il y a plus de personnes.
L'émission touche à sa fin et je veux vous remercier en tout cas Josette Liu, Florence Heldin et Mélanie Crier d'avoir donné un peu de temps sur Heure d'Ivoire pour nous annoncer donc cette semaine bleue.
Et nous te remercions.
Merci à toi, Yves.
Merci.
Et je vous souhaite une bonne soirée. Au revoir.
Au revoir. I'm not going to do that.
Thank you.